VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et excellent réveil en votre compagnie Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bienvenue à l'édition du vendredi 24 juillet 2015. À la une ce matin.
Première visite d'un président américain au Kenya. Barack Obama arrive ce vendredi à Nairobi pour un sommet sur l'entrepreneuriat ainsi que des réunions avec son homologue Uhuru Kenyatta.
Présidentielle burundaise, l'Europe envisage de prendre des sanctions contre le gouvernement pour avoir tenu des élections non représentatives.
Affaire des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, Amnesty International dénonce le manque de volonté des autorités britanniques pour traduire en justice la société Trafigura.
Lutte contre le groupe État islamique, la Turquie a bombardé ce matin des positions du groupe djihadiste en Syrie.
Et c'est dans ce contexte qu'Ankara autorise Washington à utiliser ses bases aériennes.
Ne manquez pas la page éco et les sports, mais d'abord le journal.
La visite du président Barack Obama au Kenya et en Éthiopie lui vaut de nouvelles critiques, selon lesquelles ces deux pays n'hésitent pas à violer les droits de l'homme et les libertés démocratiques fondamentales. Monsieur Obama, qui arrive ce vendredi au Kenya pour un sommet sur l'entrepreneuriat ainsi que des réunions avec son homologue Uhuru Kenyatta, sera le premier président américain à visiter non seulement ce pays, terre natale de son père, mais aussi l'Éthiopie dimanche pour des entretiens avec le premier ministre Haile Mariam Desalegn et une allocution au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Idrissa Seydoudia fait le point.
Dans une lettre à M. Obama, Human Rights Watch et d'autres organisations de défense des droits de l'homme ainsi que des analystes reconnaissent les menaces sécuritaires auxquelles les deux pays font face, mais accusent leur gouvernement d'abus sécuritaires et d'efforts accrus pour museler la société civile et les médias. De tels comportements, avertissent-ils, peuvent avoir un effet boomerang en sapant les principes mêmes de l'état de droit. Le chef de l'exécutif américain se promet de mettre l'accent pendant son périple africain sur la croissance économique. Elle dépend, souligne-t-il, de la bonne gouvernance, d'institutions démocratiques fortes, de la liberté d'expression et de presse, d'une vigoureuse participation de la société civile et du respect des droits de l'homme. Certains pays africains ont fait des progrès impressionnants dans ce domaine, mais d'autres pas, a écrit M. Obama dans une contribution aux routes, un site web essentiellement africain-américain. Sa visite, a-t-il ajouté, sera l'occasion d'aborder ces questions sans ambages, publiquement et en privé, dans ses conversations avec ses hôtes. Outre la menace terroriste que fait peser sur la région Al-Shabaab, la milice islamiste somalienne.
L'Europe envisage de prendre des sanctions contre le gouvernement burundais pour avoir tenu des élections non représentatives. C'est ce qu'a fait savoir hier Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne. Les précisions de Bouda Rachid.
Les résultats officiels de la présidentielle burundaise controversée du 21 juillet sont prévus aujourd'hui. Bruxelles estime qu'en l'absence d'un dialogue substantiel pouvant conduire à un consensus national, le Burundi parviendra difficilement à restaurer la démocratie et la stabilité. L'Union européenne compte donc actionner pour une période pouvant atteindre 120 jours l'article 96 de l'accord de Cotonou qui s'applique lorsque les engagements démocratiques ne sont pas respectés par des signataires. Celui-ci prévoit notamment l'arrêt de la coopération. En attendant, l'Union européenne exige le retour immédiat de l'opposition au dialogue pour une sortie de crise et un retour à la démocratie. La communauté est-africaine avait demandé le report de l'élection présidentielle burundaise et avait désigné le président ougandais comme médiateur de la crise du fait de la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat.
L'affaire des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, c'était en août 2006. La société Trafigura était mise en cause. 9 ans plus tard, le bilan humain reste dramatique, avec au moins 15 décès et plus de 100 000 personnes affectées. Amnesty International dénonce dans un communiqué le manque de volonté des autorités britanniques pour traduire en justice la multinationale Trafigura. Les précisions de Tatiana Mosso.
Des picotements dans les yeux et la gorge, voilà ce que décrivaient le 19 août 2006 des habitants d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Intoxiqués par l'odeur des déchets déversés par un navire, alors affrété par la société Trafigura. L'entreprise spécialisée dans les matières premières reste dans le collimateur des défenseurs des droits de l'homme. En mars 2014, Amnesty International saisissait la justice britannique pour déterminer le rôle de Trafigura dans ce déversement. Réponse, ils reconnaissent ne pas disposer des outils ni des compétences nécessaires pour enquêter sur le géant du négoce. Amnesty International se base sur 5 ans d'enquête et 5000 pages d'un dossier contenant de nombreux éléments tendant à prouver que le personnel de Trafigura basé à Londres avait peut-être organisé de façon intentionnelle le déversement des déchets en Côte d'Ivoire. La synthèse souligne au passage que l'affaire Trafigura n'est pas une exception. D'autres entreprises basées au Royaume-Uni seraient coupables à l'étranger de crimes environnementaux et de violations des droits de l'homme.
Drame en Méditerranée, le bilan du naufrage de mercredi matin au large des côtes libyennes est désormais d'au moins 10 morts. C'est ce que rapportent les autorités italiennes, alors que le HCR avait précédemment annoncé que le nombre de disparus pourrait atteindre la quarantaine. Les victimes se trouvaient sur un bateau pneumatique, à bord duquel il y avait une centaine de migrants, expliquent les autorités. Selon le HCR, ces migrants sont essentiellement des hommes venus de Somalie, d'Érythrée, du Bénin et du Mali.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ankara, engagée dans la lutte contre le groupe État islamique, la Turquie a mené aujourd'hui son premier raid aérien contre des positions djihadistes en Syrie, 4 jours après l'attentat de Suruç attribué au mouvement radical. D'après l'AFP, l'opération s'est déroulée dans la zone frontalière qui fait face à la ville turque de Kilis. Jeudi, des combattants djihadistes avaient ouvert le feu depuis la Syrie sur un poste frontalier de l'armée turque dans la région de Kilis, tuant un sous-officier et blessant 2 soldats, selon l'état-major turc. Des chars turcs ont immédiatement riposté en ouvrant le feu sur une position djihadiste, tuant un de ses combattants.
Et c'est dans ce contexte que la Turquie a finalement accepté d'étendre sa coopération avec les États-Unis dans la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. Selon des médias turcs et américains, Ankara autorise Washington à utiliser des bases aériennes, dont celle d'In-Sirlik, dans le sud du pays. Les autorités américaines ont cependant refusé de publiquement discuter de l'accord entre les deux pays. Voilà plusieurs mois que les États-Unis pressaient la Turquie afin d'obtenir le droit d'utiliser cette base. La Maison-Blanche avait cependant fait savoir que les deux pays entendent joindre leurs efforts pour amener la sécurité et la stabilité en Irak, ainsi qu'une résolution politique du conflit en Syrie.
Et sur le terrain, en Syrie, une coalition de rebelles a lancé jeudi une offensive contre les zones contrôlées par le régime de Bachar al-Assad à Deraa, berceau de la révolte de 2011 contre le président syrien. Le but est de purifier la province de Deraa des saletés du gang Assad, affirme le Front du Sud. Les deux camps auraient notamment échangé des tirs d'obus. Ainsi, depuis jeudi matin, 6 rebelles, dont 2 responsables, ont été tués, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et le régime syrien a mené au moins 21 raids et lâché 32 barils d'explosifs sur des positions rebelles.
3 hauts responsables de l'administration Obama ont défendu lors d'une audience au Congrès l'accord conclu la semaine dernière entre l'Iran et le groupe 5+1. Pour le secrétaire d'État John Kerry et ses collègues de l'énergie et du trésor, c'était un face-à-face difficile chez Robin Dorsil.
D'entrée de jeu, le président de la Commission des affaires étrangères, le républicain Bob Corker, a critiqué le secrétaire d'État John Kerry pour les termes de l'accord de Vienne. De mon point de vue, monsieur le secrétaire d'État, je suis désolé de le dire, c'est un peu comme un client laissant un hôtel seulement avec un peignoir sur le dos. Je crois que vous vous êtes fait plumer. Mais, John Kerry insiste, sans cet accord, Téhéran aurait pu accélérer davantage son programme nucléaire. La question, a expliqué M. Kerry, n'était pas d'accorder aux Iraniens ce qu'ils souhaitaient. Il s'agissait plutôt de mettre un frein à leurs ambitions nucléaires, de démanteler l'aspect militaire de leur programme nucléaire, pas tout le programme. Et il se dit confiant d'avoir réalisé cet objectif. 2 de ses collègues du cabinet étaient également au Congrès hier pour répondre aux questions des législateurs des 2 parties. Le secrétaire à l'énergie Ernest Moniz, un physicien nucléaire qui a négocié les aspects techniques de l'accord, et le secrétaire au Trésor Jack Lew. Si l'accord est rejeté par le Congrès, le président américain Barack Obama a promis d'opposer son veto à cette décision.
Nouvelle fusillade ici aux États-Unis. Cette fois-ci, il s'agit d'un homme armé qui a ouvert le feu hier soir dans une salle de cinéma de Lafayette, en Louisiane, lors de la projection du film Trainwreck. 2 personnes ont été tuées et au moins 8 autres ont été blessées. L'assaillant s'est ensuite suicidé. Les autorités qui affirment connaître l'identité du tireur ont simplement fait savoir qu'il s'agit d'un homme de 58 ans. Pour le gouverneur de la Louisiane, Bobby Jindal, il s'agirait apparemment d'un acte de violence aléatoire.
Et course à la présidence américaine, le candidat républicain Donald Trump était hier à Laredo, au Texas, à la frontière mexicaine, une ville peuplée à 95% de latino-américains, où il a promis d'endiguer l'immigration clandestine, un des thèmes phares de sa campagne. Le magnat de l'immobilier, âgé de 69 ans, a affirmé qu'il aimait les latino-américains, qu'il pensait obtenir leur vote, et se voyait remporter la Maison-Blanche en 2016 face à Hillary Clinton, la pire secrétaire d'État de l'histoire des États-Unis, selon lui. Nettement en tête des 16 candidats à l'investiture républicaine dans les sondages, Donald Trump a pourtant récemment suscité la polémique en faisant passer les Mexicains pour des violeurs et des criminels.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Idrissa Seydoudia.
Les États-Unis vont passer en revue leurs relations et niveaux d'aide au Burundi au cours des deux prochains mois après que ce pays eut tenu des élections jugées non crédibles par les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui, selon l'agence Reuters, l'ambassadeur américain. En revanche, en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur des États-Unis, Terence McCurley, et le ministre d'État ivoirien, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, ont signé mercredi un protocole d'accord sur l'initiative Trade Africa en vue d'accroître les opportunités commerciales en Côte d'Ivoire et dans la région, indique une note d'information de l'ambassade américaine transmise à l'agence APA. Le président américain Barack Obama sera à Nairobi ce week-end pour le sommet mondial de l'entrepreneuriat, l'occasion de parler de Huub van Grispaard, un entrepreneur et motard néerlandais de 40 ans qui a lancé au Kenya le projet Kibo Africa qui porte sur les Boda Boda, les mototaxis. Avec ses motos robustes et bien entretenues, ses cours de sécurité routière et de premier secours ainsi que son système de microcrédit, rapporte l'AFP, Kibo veut former des conducteurs à devenir des entrepreneurs responsables.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Idrissa. Et on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Morgane.
En Europe, sanctions exemplaires contre le racisme.
Un point a été retiré à la Croatie pour comportement raciste après l'incident en juin lors du match Croatie-Italie. On se souvient qu'une croix gammée était apparue tracée sur la pelouse lors de ce match de qualification à l'Euro 2016. L'UEFA a également décidé que les deux prochains matchs à domicile de la Croatie se joueraient à huis clos et a interdit la sélection de disputer des rencontres pour l'Euro dans le stade de Split. L'UEFA a aussi infligé une amende de 100 000 euros à la fédération croate qui dispose de 3 jours pour faire appel.
Transfert.
Le défenseur international guinéen Florentin Pogba a prolongé de 2 ans son contrat avec l'AS Saint-Etienne. Avant d'arriver dans le club français, le défenseur âgé de 24 ans est né à Conakry, a joué au Celta Vigo, mais également à Sedan. Je vous rappelle qu'il est le frère de Paul Pogba, l'international français de la Juventus de Turin. Parlons aussi de Hassan Houl de Tegedi, qui s'est engagé avec Villarreal, où il intégrera le centre de formation dans un premier temps. Villarreal a donc recruté ce jeune espoir mauritanien. Âgé de 17 ans, il rejoint la Castilla de Villarreal. Un partenariat a également été signé entre le club espagnol et l'Académie nationale mauritanienne dans le cadre de ce transfert.
Et victoire française au Tour de France.
Romain Bardet a gagné la 18e étape ce jeudi à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est la deuxième victoire d'un coureur français depuis le départ. Le Britannique Chris Froome, qui n'a jamais été mis en difficulté, conserve son maillot jaune à quelques jours de l'arrivée à Paris.
Sprint, retour d'Usain Bolt à la compétition.
Le sextuple champion olympique Usain Bolt, qui s'est fait rare depuis 2 saisons en raison de problèmes physiques, il se dévoilera sur 100 mètres ce vendredi soir à Londres. À seulement 1 mois des Mondiaux de Pékin, le sprinteur jamaïcain a tenu à rassurer hier en conférence de presse. Je ne doute pas et je ne suis pas inquiet, il reste encore 1 mois, a-t-il affirmé. Morgane, je vous rappelle que la saison 2015 de Bolt, qui souffre au niveau du bassin et de la jambe gauche, s'est résumée à une participation aux Mondiaux des relais et sur le plan individuel à 3 200 mètres et un seul 100 mètres.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerrier, en votre compagnie, deuxième partie de notre émission. Première escale ce matin, celle de Barack Obama au Kenya. Le président américain rencontrera évidemment son homologue kényan, Uhuru Kenyatta. Les deux présidents auront à discuter de commerce et de sécurité avec la lutte contre les djihadistes d'Al-Shabaab, responsables notamment du massacre de Garissa. Même priorité lorsque le président américain rencontrera les dirigeants éthiopiens. L'Éthiopie est aussi en pointe dans le combat au sein de la mission africaine en Somalie. Les États-Unis sont de plus en plus présents dans la lutte contre l'organisation somalienne, notamment par des frappes aériennes à l'aide de drones. Nicolas Pinault a joint Benoît Hazard, chercheur au CNRS.
Alors, une des raisons pour lesquelles ils sont capables d'opérer au Kenya, c'est que depuis deux ans, c'est-à-dire depuis l'attaque du mall de Westgate, on a découvert en fait qu'il y avait un certain nombre d'infiltrations et d'implantations des Shabab sur le territoire kenyan, et que en fait cette organisation, qui initialement est une organisation djihadiste basée en Somalie et principalement somalienne puisqu'elle est issue d'un mouvement ultranationaliste somalien, elle a été capable de se redéployer par une politique d'exportation de la guerre, mais aussi de manière assez souterraine, sur le territoire kényan et en particulier auprès de populations vulnérables. Alors c'est ainsi qu'effectivement on a découvert qu'il y avait des cellules dormantes d'Al-Shabaab à Garissa, à Mandera, mais aussi immédiatement après l'attaque de Westgate en 2013 dans le quartier de Isli qui se trouve au cœur de Nairobi.
Est-ce que les forces de sécurité kényanes ont pris la mesure de cette menace intérieure des Shabaab?
Jusqu'à une période récente, on pouvait se poser un certain nombre de questions sur la capacité des forces de sécurité kényanes à réagir aux incursions des Shabab sur le territoire kényan, en particulier le long de la frontière avec la Somalie et dans la région de Garissa. En fait, depuis les événements de Garissa, il y a eu des renforts de troupes qui ont été envoyés sur place. En même temps, on a assez peu d'informations sur les troupes qui sont effectivement déployées au sol le long de la frontière somalienne. Ce qui est certain, c'est qu'on a des incursions qui se font de manière très différente. Les Shabab ne sont plus dans une logique de massacre de masse des populations kenyanes, ce qui avait été un peu la logique après 2013, après l'attentat de Westgate et l'attentat de Garissa. Mais probablement que ça a joué un petit peu sur leur image en Somalie. Et donc actuellement, ils ont plutôt tendance à effectuer des incursions en territoire kenyan. Les cibles sont à nouveau des cibles qui sont celles des représentants de l'État, vers plutôt la police et plutôt l'armée.
Comment vous expliquez finalement que ce mouvement, malgré la mort de ses chefs, parfois très importants, arrive à se régénérer et arrive à perdurer dans le temps?
Le mouvement Shabab, c'est une organisation qui, au départ, mélange une organisation de type islamique, c'est-à-dire qu'on a en fait au départ en Somalie des sociétés qui sont des sociétés pastorales organisées sur une base islamique. Et en fait, les chefs de guerre ou les leaders des Shabab, pour un certain nombre dans le passé, ont été liés à Al-Qaïda, en particulier Al-Qaïda au Yémen. Mais un certain nombre de leaders Shabab sont des chefs de guerre issus de l'Union des tribunaux islamiques et en fait qui font simplement régner la terreur et qui ont été éduqués en même temps dans une situation de guerre civile qui dure depuis plus de 20 ans maintenant en Somalie. En fait, on a là une capacité de régénérescence du mouvement qui est liée, à mon avis, en partie aux conditions, à la structure sociale somalienne, mais à la structure sociale somalienne contemporaine, c'est-à-dire liée à l'expérience de la guerre depuis 20 ans. Et effectivement, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'il n'y aura probablement pas de possibilité de stabilisation politique dans la région tant que le conflit somalien n'aura pas été réglé.
Benoît Hazard, chercheur au CNRS, joint à Nairobi. Au Niger, à peine annoncé, et alors même que la commission électorale attend que le gouvernement le valide, le chronogramme des élections générales de 2016 divise. Les partis de l'opposition et certains partis non affiliés estiment qu'il est taillé sur mesure pour le régime en place en prévoyant l'élection présidentielle avant les locales. On fait le point dans ce reportage avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le chronogramme prévoit le premier tour de la présidentielle pour le 21 février 2016. Il sera couplé aux élections législatives. En cas de second tour, Le scrutin aura lieu le 20 mars 2016 et c'est en mai, le 19 précisément, que les élections au niveau communal, départemental et régional seront organisées. Ce chronogramme a été adopté de façon consensuelle selon des sources proches de la Commission électorale nationale indépendante par l'ensemble de ses membres au cours d'une session plénière. Malgré tout, et bien qu'ils soient représentés au sein de cette Commission électorale nationale indépendante, les partis politiques de l'opposition crient au scandale. Ousseini Salatou est le porte-parole du regroupement des partis politiques de l'opposition.
Depuis un an, un certain nombre de responsables de la majorité, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, ont déjà annoncé les couleurs pour dire qu'il y aura d'abord les élections présidentielles avant les élections locales. Au niveau de l'ARDE, nous disons qu'il faut arrêter cette mascarade. Nous ne serons pas d'accord par rapport à ce qui est en train d'être fait. Il y a 40 partis au niveau de la majorité, 16 partis au niveau de l'opposition. Et en temps opportun, on rentre dans les détails. Beaucoup de choses ont été faites pour amener certains partis qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce chronogramme à accepter sous la base des menaces, sous la base des chantages, sous la base d'un certain nombre de choses.
Même sentiment d'injustice chez les partis non affiliés à l'image de celui de celle qui a été la première femme à se porter candidate à la présidentielle au Niger lors des dernières élections, Madame Bayar Mariama Gamache.
Ce n'est pas tous les partis qui vont présenter un candidat aux élections présidentielles. Si on veut que la démocratie soit, il faut permettre à ce que l'ensemble des partis qui peuvent. Quand on crée un parti, c'est pour compétir. Quand des partis qui viennent de naître n'ont pas la capacité ou en tout cas la puissance, parce qu'ils vont l'avoir plus tard, il faut leur permettre de participer au jeu démocratique. Et le chronogramme tel qu'ils viennent de le faire vraiment, c'est pour consacrer l'injustice et la discrimination au Niger. Et ce pourquoi on s'est toujours battu. Donc vraiment, nous sommes contre ce chronogramme. Il viole vraiment l'esprit. Et même la lettre de la démocratie pour laquelle on se bat, pour laquelle on s'est toujours battu au Niger.
Du côté du parti au pouvoir, on n'a aucune objection, la CENI étant indépendante et représentative de tous les acteurs.
Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas quelqu'un qui peut remettre en cause les décisions de la CENI. La CENI est indépendante, donc ils ont beau gesticuler, ils ont beau s'agiter, il revient à la CENI. Et à personne d'autre de déterminer le chronogramme des élections comme toutes les autres activités qui sont liées aux élections.
La Commission électorale nationale indépendante a expliqué le choix d'un tel ordre séquentiel des élections par des contraintes de temps et de disponibilité du fichier qu'elle n'aura que vers la fin du mois d'octobre. Et dans tous les cas, les dates retenues respectent les dispositions légales en matière électorale, confie une source proche de la CENI. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
L'université Omar Bongo et son principal campus, situé à quelques mètres du boulevard qui mène au centre-ville, ont été construits au début des années 70. À cette époque, jusque dans les années 80, les conditions de vie de l'étudiant étaient parmi les plus privilégiées. Aujourd'hui, les salles de classe sont vétustes et surpeuplées. Les autorités universitaires ont recours à des moyens expéditifs pour pallier à cette situation. Depuis lundi, les enseignants et chercheurs sont à nouveau rentrés en grève. Ils réclament des primes impayées qui représentent une enveloppe de 600 millions de francs CFA. Reportage à Libreville de notre correspondant Jean-Rovis Dabeni.
Leurs véhicules sont garés devant l'entrée principale du campus pour empêcher toute circulation automobile dans la cité universitaire. Face à ce blocus, le personnel administratif pénètre dans le complexe par un mur d'enceinte. À l'origine, un mouvement de grève déclenché par les enseignants du supérieur. Ils réclament le paiement de leurs primes et l'augmentation de leur salaire. Près de 250 enseignants sont directement concernés. L'auteur Messi Mena enseigne l'histoire à l'université Omar Bongo.
Nous revendiquons nos primes d'installation de la recherche que nous avons perçues depuis deux mois maintenant. Nous revendiquons aussi les bons de caisse, c'est-à-dire nos salaires du mois de mai qui n'ont pas été payés jusque-là. Le gouvernement nous reproche d'avoir pas travaillé ce mois. Or, les attestations de présence au poste attestent effectivement que nous avons travaillé ce mois. Donc nous revendiquons que ce mois nous soit effectivement payé. Pourquoi nous faisons un sitting ici au niveau de l'université, qui est la mère des universités du Gabon, pour montrer à l'opinion notre mécontentement face à ce traitement arbitraire du gouvernement.
Cette grève intervient alors que plus de 20 000 écoliers se préparent à passer le baccalauréat à partir de lundi. Et réunis en assemblée générale jeudi, les enseignants qui restent ouverts aux discussions ont décidé de boycotter cet examen. Patrick Mumbo est le secrétaire général de l'un des syndicats des enseignants du primaire et du secondaire.
L'action que nous avons, disons, posée aujourd'hui consiste à boycotter le baccalauréat. Ce boycott est lié à un certain nombre de faits, c'est-à-dire la rétention des salaires aussi bien au niveau de l'éducation nationale qu'à l'enseignement supérieur. Il se trouve qu'à l'éducation nationale, depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, plusieurs enseignants, en l'occurrence les leaders syndicaux en majorité, sont privés arbitrairement et illégalement de leur salaire.
L'université Omar Bongo, sans moyens et souvent mal gérée, accueille les étudiants boursiers de l'État appartenant au groupes sociaux les plus vulnérables, enfants de paysans et d'autres travailleurs aux conditions modestes, ceci avec une maigre bourse, raison pour laquelle la grève est devenue l'unique moyen de pression contre le pouvoir. Originaire du sud du pays, Ornella, étudiante à la faculté de droit, vient d'une famille rurale pauvre. Pour elle, il ne fait aucun doute, ces grèves chroniques sont une volonté manifeste du pouvoir.
C'est une volonté manifeste des autorités de maintenir les étudiants dans ces conditions, dans la mesure où ils connaissent quelles sont les revendications des étudiants et ils connaissent quelles sont les portes de sortie, quelles sont les solutions pour remédier à ces problèmes, mais ils restent les bras croisés.
Signe de ce malaise, les gendarmes assiègent le campus depuis bientôt 2 ans. Les résidences universitaires ont été fermées pour des raisons de sécurité, selon les autorités rectorales. Mais pour les nombreux étudiants, cette décision visait à les contraindre de rentrer chez leurs parents, car le gouvernement, disent-ils, les soupçonne de prendre part aux contestations contre le pouvoir. Malgré la multiplication des universités privées qui sont complémentaires aux institutions publiques, force est de constater que les conditions étudiantines ne sont pas du tout améliorées. Les étudiants ne vivent que de la bourse du gouvernement, 83 000 francs CFA par mois, qui tombent souvent en retard. Pendant que les enseignants débutants touchent eux la somme de 250 000 francs CFA, l'équivalent d'un loyer. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
Le marché des alliances politiques est ouvert au Bénin pour l'élection des maires et de leurs adjoints à la tête des municipalités et communes du pays. Les négociations vont déjà bon train au niveau des états-majors des formations politiques, aboutissant à des alliances de toute nature. Voici le reportage de Peggy Ludovic Dagba de Cotonou.
Après la récente proclamation des résultats des élections municipales et communales par la Commission électorale nationale autonome, les nouveaux élus seront installés dans les tout prochains jours dans leurs fonctions par les préfets et procéderont ensuite à l'élection des maires, ce qui passera forcément par le jeu des alliances. Mais une question subsiste. Ceci se fera-t-il dans l'intérêt des populations? Réponse de Lancelot Aguiar, il est membre de l'alliance ABT.
Les gens avec qui il faut discuter sont des Béninois, ont été élus conseillers dans cette localité-là, donc représentent une partie de l'électorat de cette commune. Donc les alliances ne peuvent être que sur l'autel de l'intérêt supérieur des populations à la base.
Pour reprendre la mairie de Cotonou, la liste RBRP de l'ancien président maire Nicéphore Dieudonné Soglo, qui n'a pas pu réunir la majorité absolue des sièges, devra s'associer aux autres forces politiques en présence. Richard Soglo, membre de la liste RBRP.
Nous n'excluons personne. Il y a les FCBE, il y a l'UN, il y a le PND bien évidemment, et aussi le réseau Atao qui a quand même un conseiller. C'est des Béninois à part entière avec qui nous allons nous entendre pour que la ville de Cotonou puisse vraiment se développer dans l'harmonie.
La liste ABT fera aussi tomber des mairies dans son escarcelle dans le nord Bénin. Lancelot Aguiar.
Au niveau de Parakou, nous n'avons pas la mairie, mais nous sommes présents au conseil municipal. Au niveau de Nakitengou et dans plein d'autres, à Waké par exemple, nous avons la mairie. Et ce ne sont pas des candidats parachutés de Cotonou. Ce sont des leaders locaux qui ont bien voulu essayer à la gestion, qui connaissent les problèmes de leur population, que nous avons porté sur la liste ABT.
Encore 10 jours et le marché des alliances sera ouvert dans les mairies du Bénin. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Morgane Guiriac à la présentation. Et je vous souhaite une excellente journée à tous.
voyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.